Chemin de vie.
Bienvenue, amis auditeurs. Merci pour l'intérêt que vous portez à la rubrique Chemin de vie. Cette rubrique vous est proposée régulièrement sur cette fréquence du lundi au vendredi à cette même heure. Au micro, Jean.
Accompagné de Heidi, et pour nous piloter, Daniel est à la technique. Je trouve toujours passionnant de parcourir la Bible. À chaque fois, j'en retire quelque chose pour ma vie personnelle. Et toi, Jean ?
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Heidi. Aujourd'hui, nous allons voir que le roi David est un homme de foi. Il n'est jamais déçu, ni ébranlé, car il place sa confiance dans le Très-Haut. Après ce chant de Manu Vince intitulé « Ta bonté », nous pourrons tirer de ce psaume 21 quelques leçons de vie pour nous-mêmes.
Je me sens si bien sûr assuré quand je suis près de toi. Même dans la nuit quand le diable vient me tourmenter, je fixe mes yeux vers toi. Car ta bonté vaut mieux que toute chocolatée. Et ton amour conduit mes pas chaque jour. Je me sens si bien, si rassuré lorsque j'entends ta voix. Qui me dit bien mon enfant, reste à mes côtés, je fixe mes yeux vers toi. Car ta bonté est moins que toute chose de la vie. Et ton amour vous ne pas chaque jour. Si bien, si protégé, quand je marche près de toi. Même si les problèmes veulent me faire tomber, je marche sur tes pas. Car ta bonté vaut mieux que toute chose de la vie.
Tout le monde sait que Noël a lieu le 25 décembre, la Toussaint le 1er novembre, l'Assomption le 15 août, parce que ce sont des fêtes fixes. Mais les autres grandes célébrations du calendrier religieux sont amovibles, elles changent d'année en année. Ainsi Pâques a lieu le premier dimanche après la première pleine lune de printemps qui se situe entre le 22 mars et le 25 avril. L'Ascension, 40 jours plus tard, et la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Il est étonnant que tous ceux qui se disent chrétiens observent Noël, Pâques et la Pentecôte, mais pas l'Ascension du Christ. Seules certaines familles d'Église à forte tradition liturgique le font. Or, c'est le psaume 21 qu'elles utilisent pour commémorer l'Ascension. Cet événement important marque le retour du Seigneur Jésus dans la gloire. Il s'est alors assis à la droite du Père dans le sanctuaire céleste, où il exerce le ministère de grand prêtre en faveur de tous ceux qui lui font confiance. Le psaume 21 fait partie des psaumes royaux. Il est très proche du précédent, aussi bien dans sa structure que dans son contenu. David a composé ce cantique de louange après la bataille qui a vu l'exaucement de sa prière du psaume 20. Ici, le roi se réjouit dans la puissance de l'Éternel qui a répondu à sa foi en lui donnant une très grande victoire. Ce psaume ne fait pas partie de ceux qui traditionnellement sont dits messianiques. qui sont cités dans le Nouveau Testament parce qu'ils contiennent des passages prophétiques annonçant un aspect de la vie ou de l'œuvre de Jésus-Christ. Cependant, dans la tradition juive, le roi du psaume 21 est le Messie. C'est en tout cas l'enseignement à la fois du Talmud, qui est le recueil des enseignements des grands rabbins, et du Targum, qui est une traduction ou une paraphrase de portions de l'Ancien Testament en araméen. Le grand rabbin Salomon Isaaki, connu sous le nom de Rashi, né en 1040 de notre ère, et grand commentateur du Talmud, considérait lui aussi que le roi du psaume 21 était le Messie. Cependant, il suggéra l'abandon de cette interprétation parce que les chrétiens s'en servaient pour montrer que Jésus de Nazareth était le Messie. La position théologique de Rashi atteste indirectement qu'il est bien question du Seigneur Jésus dans ce cantique et même de son retour sur terre pour juger ceux qui le rejettent et pour établir son royaume. Comme la plupart des autres, ce psaume était utilisé pour le culte au temple. En ce qui le concerne, un commentateur a fait la remarque suivante. Chaque souverain juif était une faible représentation du vrai roi d'Israël. Quelle qu'ait été la dévotion des personnes pieuses pour le monarque régnant, que ce soit David ou un de ses descendants, tous leurs espoirs et aspirations s'étendaient au-delà vers celui qui serait à la fois le Seigneur de David et son fils. Fin de citation. En effet, dans l'Évangile, Jésus est appelé à la fois Seigneur et Maître et le Fils de David. Je commence maintenant à lire le psaume 21. Au chef de chœur, cantique de David, ô Éternel, le roi se réjouit de ta force, quelle est grande sa joie devant l'œuvre de ton salut. Versets 1 à 2. Les premiers et derniers versets de ce cantique sont parallèles. Tous deux expriment les mêmes idées qui servent de cadre à l'ensemble du psaume. David loue l'Éternel pour avoir manifesté sa puissance dans les combats qu'il a menés contre les ennemis d'Israël. Il parle de son expérience personnelle, mais étant prophète, ses paroles sont quelquefois applicables à Jésus-Christ. Ainsi, on peut voir dans la joie de David celle du Christ. Dans le Nouveau Testament, il est écrit « Parce que Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » Fin de citation. Lorsqu'il est allé à la croix, Jésus voyait déjà les conséquences de son sacrifice, à commencer par l'obtention du salut pour tous les rachetés de tous les temps. Je cite un passage du Nouveau Testament. « Tu es digne, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Fin de citation. Étant fils de Dieu, Jésus possédait par nature la gloire et la puissance. Mais à cause de son sacrifice volontaire, il les a également mérités. Ce qui était une autre raison de sa joie. Après son ascension, il s'est assis à la droite de la majesté divine et a reçu pleine autorité sur toute la création. Je lis un passage. Jésus-Christ, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et les anges, les autorités et les puissances célestes lui sont soumis. Fin de citation. Je continue le psaume 21. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Pause. Verset 3. David fait allusion à la victoire militaire qu'il vient de remporter. Le Seigneur Jésus aussi a dû livrer bataille, mais contre les puissances des ténèbres. Lors de la prière dite sacerdotale, juste avant qu'il ne soit arrêté, jugé et exécuté, Jésus a dit « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Fin de citation. Sur la croix, Dieu le Père et le Fils ont été glorifiés. Le Christ a triomphé du mal et du malin, du diable et de ses cohortes au profit de l'humanité et plus particulièrement de ceux qu'il accepte comme sauveur. Plus loin, dans la même prière, Jésus ajoute « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Fin de citation. Cette requête sera exaucée dans l'éternité. Je continue le psaume 21. Tu es venu à lui chargé de tes bénédictions et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Verset 4. David avait été choisi par l'Éternel pour régner sur Israël, son peuple. Il portait non seulement sa couronne, mais encore celle des vaincus. En effet, lorsque deux rois combattaient, la coutume voulait que le vainqueur s'empare des richesses du monarque battu et place sa couronne sur sa tête. David avait fait ce geste après avoir triomphé des Ammonites. Je lis le passage. Il prit la couronne qui se trouvait sur la tête de leur roi. Cette couronne, qui était tout en or, pesait une trentaine de kilos et était garnie d'une pierre précieuse. Elle vint orner la tête de David. Le roi emporta de la ville un immense butin. Fin de citation. Tout comme David, Jésus sera lui aussi un souverain combattant. Je lis un passage de l'Apocalypse. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Fin de citation. Je continue le psaume 21. « Il t'avait demandé la vie, tu la lui as donnée et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande. » Et tu l'as revêtu de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédictions éternelles. Tu le remplis de joie par ta présence. Versets 5 à 7. L'Éternel avait promis à Abraham, « Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Fin de citation. Cette bénédiction s'est pleinement accomplie en Jésus-Christ qui dans le Nouveau Testament est appelé à la fois le Fils et la descendance d'Abraham. De plus, les croyants sont eux aussi fils spirituels d'Abraham et héritiers de sa bénédiction. Je cite le passage. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Fin de citation. Jésus est venu sur terre pour donner sa vie en rançon. Il a été humilié. Il a agonisé dans le jardin des Oliviers et a subi la mort terrible par crucifixion. Dans un autre psaume, on lit « Il a brisé ma force au milieu de ma course et abrégé mes jours. C'est pourquoi je m'écris « Mon Dieu, ne me fais pas mourir au milieu de mes jours, toi qui subsistes d'âge en âge. » Fin de citation. Dans ses prières, alors qu'il est sur terre, Jésus demandait à vivre. Je cite deux passages. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, sous-entendu de ta colère. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Fin de citation. Bien qu'exécuté comme un vulgaire criminel, le Christ a été exaucé puisqu'il est ressuscité des morts. Dans l'éternité passée, Jésus était assis sur son trône dans la gloire et la majesté divine. Puis, il y a eu la création, la rébellion de l'homme et enfin le premier Noël où Jésus est venu habiter parmi nous. Tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance sur terre jusqu'à son ascension, il l'a expérimenté uniquement pour le bénéfice des hommes afin de les racheter de la perdition éternelle. Aujourd'hui, il est à nouveau dans la gloire et un jour il sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Je continue le psaume 21. Car c'est en l'Éternel que le roi se confie, et grâce à l'amour du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Verset 8. C'est le verset central du psaume qui exprime aussi sa vérité principale, c'est-à-dire le fondement de la joie, de la bénédiction et de la sécurité du roi David se trouve en sa foi en l'Éternel et en son amour. Pareillement, la raison pour la paix et la joie de Jésus en toutes circonstances de sa vie était sa confiance inébranlable en son Père qui prenait soin de lui. Cette tranquillité d'esprit ressort de façon dramatique lorsqu'il est endormi dans une barque secouée par une terrible tempête. Je cite le passage. « Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ». Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il se fit un grand calme. Fin de citation. Je continue le psaume. Ô roi, tu atteindras tes ennemis, tu frapperas tous ceux qui te haïssent, tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras. Dans sa colère, l'Éternel les engloutira et le feu les consumera. Versets 9 à 10. À partir d'ici, ce n'est plus David, mais l'assemblée qui parle. À cause du soutien de l'Éternel, elle exprime son assurance dans la victoire finale de son roi, mais prophétiquement, surtout du Messie. Car si Jésus est bien l'auteur du salut pour ceux qui l'acceptent, il est aussi celui qui jugera ses ennemis sur terre, ceux qui le rejettent. Il le dit lui-même dans une parabole que je cite. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. D'autre part, dit le roi, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et qu'on les mette à mort devant moi. » Fin de citation. Dieu ne prend pas plaisir à juger. Il désire au contraire que les mécréants se repentent. Je cite un passage. « Je suis vivant. » Oracle du Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël ? Fin de citation. C'est aussi la raison pour laquelle le Christ n'est toujours pas revenu sur terre pour y établir son royaume. Je cite un autre passage. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous se repentent. Fin de citation. Je continue le psaume 21. Tu extirperas de la terre les descendants de tes ennemis et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi, ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas, tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux. Versets 11 à 13. Ce passage ne correspond pas tellement à l'époque de David et de ses conquêtes guerrières. Ces versets ne décrivent pas vraiment des adversaires de circonstances comme les Philistins, les Ammonites, les Moabites, les Édomites, les Syriens ou les Amalécites, des nations avoisinantes avec lesquelles Israël était souvent en guerre au cours de son histoire. Ce passage brosse un tableau terrible de la destruction d'ennemis d'Israël qui sont acharnés et féroces. C'est un résumé de la grande bataille de la fin des temps, lorsqu'aura lieu le jugement final de ce monde. Dans un chapitre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit une scène saisissante et très symbolique. Je lis le passage. « Alors un signe grandiose apparut dans le ciel, c'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un dragon énorme couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. » Fin de citation. Le dragon représente Satan, la femme est une image d'Israël et le garçon, c'est Jésus. Il est enlevé pour être auprès de Dieu, ce qui correspond à son ascension après la résurrection. Comme beaucoup de prophéties, cette scène apocalyptique télescope le passé et le futur lorsque l'Antéchrist s'attaquera à Israël. Ce passage explique la véritable origine et raison de l'antisémitisme. Le diable a toujours essayé d'anéantir le peuple choisi d'où le Messie devait naître et sur lequel il doit régner. Satan a aussi tenté de supprimer l'enfant Jésus par l'intermédiaire du roi Hérode ou de faire trébucher le Christ lors de la tentation dans le désert. Il a échoué. Aujourd'hui dans les cieux, Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, couronné de gloire et de magnificence. Il attend son heure pour venir conquérir ce monde et y établir son royaume. C'est le prochain événement significatif pour notre terre. Sa venue sera accompagnée d'un jugement terrible qui est décrit dans plusieurs livres des textes sacrés. Je cite un passage du Nouveau Testament. « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. » Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qu'elle renferme. » Fin de citation. La première fois que Jésus est venu sur terre, il s'est présenté très humblement. Je cite deux passages. « Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. » Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. » Fin de citation. Quelqu'un a fait la remarque suivante. Presque toutes les peintures, gravures ou dessins que j'ai vus de Jésus présentent un Christ austère, grave ou solennel. Fin de citation. Sans doute, mais ce n'est pas ainsi qu'il était, sauf peut-être à la fin de son ministère terrestre. Lorsque les religieux juifs ont conspiré contre lui, Judas l'a trahi et qu'il a été livré aux Romains pour être mis à mort. Mais il n'en demeure pas moins le Seigneur de gloire qui un jour s'imposera à tous ses adversaires. Je finis le psaume 21. Ô Éternel, que ta puissance se déploie, par nos chants et nos hymnes, nous célébrons ta vaillance. Verset 14. C'était le cri de cœur de l'apôtre Paul, qui a dit « Maranatha, viens Seigneur ». C'est aussi la prière de tous les croyants qui languissent de voir le Christ prendre enfin possession de cette terre pour y établir la justice et la paix.
Ce chant, intitulé « Plus que toi », était interprété par le groupe Virage. Mais le temps passe vite et nous voici déjà à la fin de notre demi-heure. Si vous souhaitez recevoir gratuitement le texte de ce jour, ou bien nous poser des questions, appelez le 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628.
Visitez aussi notre site internet chemindevie.info. Chemins au pluriel et le tout attaché. chemindevie.info. À demain.
Au revoir à tous.